Toujours contente de retrouver Josiane Ouellet, rédactrice en chef du magazine Continuité. Bonjour Josiane.
Bonjour Hélène.
Merci d'être avec nous. Vous allez bien?
Oui, ça va très bien, merci.
Le numéro d'automne est disponible depuis déjà 2 semaines. Il est très, très beau, bon aussi, comme d'habitude. Et le dossier principal s'intitule « Habiter dans un milieu ancien, bienvenue aux passionnés ». Comment vous avez décidé de l'aborder, ce sujet-là, de vivre dans un milieu ancien?
Oui. Ben, en fait, quand on parle de milieu ancien, nous, on voulait y aller vraiment assez de manière assez large. Donc, parler autant des sites patrimoniaux protégés, comme par exemple le Vieux-Montréal ou le Vieux-Trois-Rivières, que des quartiers historiques qui n'ont pas nécessairement de protection là, en bonne et due forme, mais qui sont quand même des milieux anciens, comme par exemple le Vieux-Boucherville, le Vieux-Lévis, et aussi parler des noyaux villageois, donc les cœurs de village qui sont aussi souvent des milieux anciens. Donc, on voulait aller autant en ville qu'à la campagne et vraiment s'intéresser à ce sujet-là du point de vue des citoyens,
oui.
Donc des résidents, parce que ce sont vraiment des acteurs essentiels pour la préservation de ces secteurs-là. Tu sais, parce qu'il faut qu'il y ait des résidents qui choisissent de vivre dans les milieux anciens pour que ces secteurs demeurent bien vivants. Il faut qu'ils entretiennent leurs bâtiments pour que l'ensemble conserve son cachet. Il faut qu'ils s'impliquent dans la préservation, dans la mise en valeur. Donc, on voulait vraiment aborder ce sujet-là de ce point de vue-là. En fait, l'idée un peu derrière le dossier, c'est que les milieux, ce sont des milieux de vie, ce sont des ensembles. Alors, si chacun fait sa part, participe en prenant soin de son bâtiment, ben c'est tout le monde qui en bénéficie parce que c'est l'ensemble qui est préservé. Donc, il y a une idée aussi de projet collectif dans la préservation des milieux anciens. Donc, c'est ça, on a une de nos journalistes qui est allée à la rencontre de résidents de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, du Vieux-Pointe-Claire, du Vieux-Trois-Rivières et de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour leur demander essentiellement pourquoi ils avaient choisi de vivre dans ces milieux-là. Voir un peu leur motivation. Et ce qui en ressort, bien évidemment, ce sont souvent des grands amoureux là, de leur coin de pays, que ce soit en raison de l'architecture, de l'histoire, des paysages aussi, des commerces de proximité. Alors, il peut y avoir beaucoup de raisons là, qui attirent les gens dans les milieux anciens. Et c'est ça qu'on entend souvent parler aussi des irritants. Donc, vivre par exemple dans le Vieux-Québec, on sait qu'il y a beaucoup de tourisme, ça peut être un irritant. On a demandé à ces gens-là, oui, bon, mais les irritants, est-ce que ce serait assez pour vous inciter à déménager? Et là, c'était un non catégorique.
Ah oui, ils sont profondément amoureux, enracinés la plupart du temps.
C'est ça, mais beaucoup les ont choisis.
Oui.
C'est ça, l'attachement est tellement fort que oui, il y a des irritants. Évidemment, il faut travailler à les diminuer, mais c'est ça. On a découvert de grands amoureux. Puis on a eu notre journaliste, ça, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a parlé vraiment à 4 citoyens encore, mais là, des gens qui sont impliqués. Donc, qui s'impliquent dans la préservation, la mise en valeur de leur milieu. Donc, au quartier Riverbend, au Saint-Léa-Saint-Jean, dans le quartier Nord, à Salaberry de Valleyfield, dans le Vieux-Lévis et dans le village du Bic, dans
oui,
le Saint-Laurent.
Le Vieux-Bic. Je ne savais pas que ça existait, ça, le Vieux-Bic.
en fait, c'est le cœur du village. Hein.
Oui.
C'est le Bic. Donc, ils nous font découvrir un peu ce qui fait l'intérêt de leur milieu et aussi les projets auxquels ils ont participé. Par exemple, Riverbend, c'est une ancienne ville de compagnie. Mm-hmm. Donc, ça a été fondé pour loger les cadres supérieurs de la Price Brothers Limited. Et ce quartier-là jouit d'un très bel aménagement paysager. Alors, vraiment, il y a des beaux arbres, les trottoirs sont bordés de bandes de gazon, les fils électriques sont souterrains.
D'ailleurs, on a des photos qui nous montrent la beauté de cet endroit.
Effectivement. Ah oui, puis les maisons sont incroyables. C'est vraiment très beau, l'architecture et tout. Et donc, quand est venu le temps de renouveler le réseau électrique, ben c'était pas, ça allait pas de soi là que le réseau allait demeurer souterrain. Alors c'est des citoyens, une comité de citoyens qui a vraiment qui s'est mobilisé pour faire en sorte que le réseau demeure souterrain et que le quartier garde sa beauté.
Faut trousser ses manches souvent, oui, puis avoir des arguments pour convaincre ceux qui sont pas de notre bord finalement.
C'est ça, exactement. Il faut vraiment être capable d'être des bons ambassadeurs, là, être capable de faire comprendre à tout le monde la valeur, oui, d'histoire et tout ça. Du côté du quartier nord, eux autres, ils ont une initiative intéressante, la mise en valeur du quartier par de la bande dessinée. Alors, en tout cas, je vous donne juste deux exemples, mais il y en a plusieurs, là. Alors, c'est vraiment intéressant de découvrir tout ça. Et on a voulu aussi s'intéresser à deux projets de protection légale, donc vraiment protection légale de quartiers historiques, entre autres la citation du quartier du musée à Gatineau, qui a fait l'objet là, d'une lutte assez épique.
Alors, mais qui a duré longtemps. Hein?
Oui, il y a quelques années, là, il y avait un gros projet immobilier et là, les citoyens se sont mobilisés, ont vraiment bien justement défendu la valeur architecturale, la valeur historique de ce quartier-là. On réussit vraiment à faire comprendre, à prendre conscience de cette valeur-là. Et finalement, le conseil municipal a voté pour la citation, donc la protection de ce quartier-là. Alors ça, c'était une belle victoire.
Alors finalement, le projet de construire des tours de 35 et de 55 étages avec hôtels, condos et bureaux ne s'est pas réalisé.
Ben non, mais c'est ça, ça prenait quand même un sacré courage politique aussi, parce qu'il y avait quand même des revenus qui étaient liés là, à ce gros projet immobilier.
Tout à fait.
Alors, de dire, non, nous, on décide de protéger le quartier parce qu'on trouve qu'il y a une valeur historique et patrimoniale. Oui, chapeau. Alors, ça, c'est vraiment une belle lutte. Mais on parle aussi du cœur d'Arvida, qui a été protégé. En fait, il n'y en a pas beaucoup de sites déclarés au Québec. Il y en a 13 qui sont protégés à l'échelle provinciale, à l'échelle du Québec. Et le site d'Arvida, c'est le plus récent, le cœur d'Arvida. Et là encore, on remarque que c'est vraiment l'enthousiasme des gens. Ça vraiment, il y a eu des consultations publiques et les gens étaient vraiment très enthousiastes par rapport à ce projet-là. Alors, c'est sûr que ça nuit pas, au contraire, hein, ça fait avancer les projets dans ce temps-là. Alors, voilà. Puis on a aussi, évidemment, on a pas juste parlé à des citoyens, on a aussi fait appel à quelques spécialistes, dont l'urbaniste Gérard Baudet, qui signe un texte sur l'histoire de la protection des quartiers historiques au Québec. Puis là encore, on voit que les citoyens y ont joué un rôle important. Et on a notre journaliste Benoît Labroche qui, elle, a parlé à plusieurs spécialistes pour leur demander qu'est-ce que c'est les facteurs de succès de la vie en milieu ancien. Et on se rend compte qu'évidemment, c'est important de protéger les caractéristiques architecturales, historiques. C'est pour ça que les gens choisissent de s'établir là, parce qu'il y a un cachet, il y a quelque chose. Alors, il faut le protéger. Mais évidemment, quand on protège, des fois, on établit certaines règles, certaines contraintes. Donc, il faut aussi être capable d'aider les gens, par exemple, financièrement, quand il y a des contraintes par rapport aux travaux de restauration à effectuer sur un bâtiment. Bien, des fois, ça coûte plus cher. Donc, essayer de fournir aussi une aide pour justement diminuer un peu les irritants. On a vu, ça prend des commerces de proximité, ça prend de la vitalité, de l'animation dans le quartier, une vie culturelle, sociale, mais pas trop. Ça aussi, on l'a vu, parce que là, il y a trop de touristes.
Ça prend un équilibre.
Oui, mais c'est ça. Donc, ça prend vraiment un équilibre de ce côté-là. Alors, c'est ça, ça fait un peu le tour là, de...
Ah oui, c'est un dossier de 20 pages absolument passionnant. Bienvenue aux passionnés, justement.
Merci.
Oui, vraiment, je l'ai lu avec énormément d'intérêt. Et il y a d'autres chroniques. On n'a pas le temps de tout passer au travers du contenu de votre revue Continuité numéro d'automne, mais on va pouvoir le faire soit en se procurant la revue en format papier, mais aussi numériquement. Là, c'est possible maintenant, Josiane.
Oui, effectivement. Donc, maintenant, on a un format numérique. Avant, c'était juste un PDF. Maintenant, c'est vraiment un format numérique. Là, on peut lire le magazine sur un téléphone cellulaire. C'est très agréable. Sur un écran d'ordinateur, il y a vraiment toutes les possibilités sont là.
Oui, oui. Et si on revient au contenu, les chroniques, vous nous amenez au magasin Sears qui était situé dans le centre commercial Place Fleury de Lys.
Oui, ben c'est ça, en fait, Place Fleur de Lys à Québec. En fait, c'est une chronique qui est assez surprenante pour plusieurs.
Ah, c'est pas Fleur de Lys, c'est Fleury.
Non, c'est Fleur de Lys.
OK, Fleur de Lys, pardon.
Fleur de Lys,
OK.
Oui, c'est la place Fleur de Lys à Québec. Et donc, ben, c'est ça, en fait, c'est assez surprenant parce que de prime abord, on n'a pas l'impression qu'un bâtiment commercial moderne a un grand intérêt historique et architectural. Mais oui, en fait, c'est ce qu'on découvre dans cet article-là. Alors, c'est vraiment passionnant. Tout le monde était un peu surpris puis intéressé par ça. En fait, c'est que le magasin témoigne de l'invention du magasin de grande surface de banlieue. Mm-hmm. Parce que Sears a été vraiment un précurseur dans ce domaine-là. Alors, c'est vraiment fascinant de voir comment le design des magasins a été influencé par les principes de commercialisation de la chaîne. Par exemple, ils ont innové en permettant à la clientèle d'avoir accès à la marchandise, ce qui se faisait pas avant. Donc, le libre service, dans le fond, oui. dans le magasinage. Et donc, ça a amené à, dans le fond, organiser les étalages de manière plus compacte, à avoir des allées plus larges. À l'époque, on essayait de réduire le nombre de fenêtres au maximum, les ouvertures, parce qu'on voulait contrôler l'environnement à l'intérieur au maximum.
Mais oui, ça m'a fait prendre conscience de cette réalité-là. Là. C'est vrai qu'on se sent dans un environnement... plutôt fermé, là. On regarde pas à l'extérieur, on a envie de rester dans le magasin, je sais pas, c'est du marketing, ça, là.
Oui, ben c'est ça, en fait, c'était... à l'époque, c'était les éclairages au néon et tout ça, c'était considéré comme le progrès, de vraiment d'utiliser les technologies et de contrôler l'atmosphère à l'intérieur, mais c'était aussi une façon de maximiser, dans le fond, l'espace exploitable, la surface exploitable. Donc, en n'ayant pas de fenêtres, on pouvait mettre
plus de stock,
ouais. partout. Alors, j'étais un petit peu dans cette optique-là. Puis, ce qu'on voit aussi, on apprend pourquoi ils ont choisi de mettre du cuivre à l'extérieur du magasin. C'est un clin d'œil au château Frontenac. Et ils ont aussi mis en façade des médaillons à l'effigie de la Fleur de Lys. Et là aussi, c'était pour essayer de faire vibrer la fibre nationaliste de leur... la fibre identitaire de leur clientèle. Alors, c'est vraiment très, très riche comme sujet. On apprend que le magasin témoigne aussi du développement urbain de l'époque. Alors vraiment, là, c'est assez intéressant et surtout prenant.
Il faut lire ça. Et qui est l'homme aux 300 clochers, Josiane?
Oui, alors l'homme aux 300 clochers, c'est l'architecte Victor Bourgeot. Un architecte qui était très, très prolifique, qui a vraiment beaucoup influencé le paysage religieux québécois au 19e siècle. On dit qu'il a été associé justement à l'édification de 300 bâtiments dans la province. Alors, on profite du fait qu'il y a une exposition qui lui est consacrée actuellement au musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour justement publier un texte sur ce personnage assez fascinant à découvrir.
Oui, pas très souriant, mais fascinant.
Oui, effectivement, on voit sur la photo, il a l'air assez sévère.
Oui. Alors, c'est un texte de Gabriel Anctil et on a du temps aussi pour parler de la caserne du Fort Lennox à l'Île-aux-Noix qui a subi une cure de rajeunissement.
Oui, effectivement. Donc, c'est ça, on a une chronique restauration sur ce beau projet-là. Donc, la caserne, le Fort Lennox, qui est surnommé l'étoile du Richelieu, là, qui en raison de sa forme, qui a été construit sur l'île aux Noix, qui était un lieu stratégique vraiment important sur le plan militaire. Alors, c'est vraiment intéressant parce que dans ce texte-là, on découvre aussi l'histoire de ce lieu-là, l'intérêt de l'île aux Noix aussi, son intérêt sur le plan du patrimoine naturel aussi. Il y a vraiment un écosystème, c'est vraiment intéressant comme lieu. Et évidemment, bon, on découvre les travaux de restauration qui ont été réalisés récemment sur la caserne, qui est un des édifices emblématique là, du fort. Et donc, on découvre les différents défis. Par exemple, c'était vraiment un défi de stabiliser, parce que c'est un bâtiment très massif, et l'île est constituée de sable et d'argile. Alors, ça a été un bon défi de stabiliser le bâtiment. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'au rez-de-chaussée, ils ont décloisonné le rez-de-chaussée pour vraiment permettre aux visiteurs d'apprécier l'architecture du bâtiment. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis, en fait, ça nous donne un avant-goût, là, vraiment, parce que les lieux vont être réouverts en 2022. Alors, on a vraiment un petit aperçu de ce qui nous attend à la réouverture, là.
Ah oui, c'est un bâtiment spectaculaire. spectaculaire. Encore une fois, il y a une autre photo qui nous donne un aperçu de cette caserne qui a été restaurée. Et moi, j'ai appris que l'île aux Noix tire son nom de la présence sur son territoire d'un peuplement indigène de noyés.
Oui, ben oui, c'est ça quand je vous disais là, le côté aussi patrimoine naturel ou en fait ce qui fait l'intérêt des Noirs, effectivement, ça vient de là.
Ben merci. Je rappelle que la revue est maintenant disponible, Continuité, l'automne, le numéro d'automne 2021. Bienvenue aux passionnés, qui sera, c'est offert en kiosque et magazinecontinuité.com, si ça vous intéresse. En format numérique, c'est consultable en ligne, comme vous le disiez tantôt, avec un téléphone mobile, une tablette, un ordinateur téléchargeable en version PDF. Et les articles sont aussi vendus à la pièce au coût de 85 cents l'unité.
Oui, ça, c'est vraiment... on se démarque avec ce côté-là. Là. Les gens peuvent vraiment aller sélectionner les textes qui les intéressent. Alors,
Merci, Josiane Ouellet, rédactrice en chef. On va se reparler quand le numéro d'hiver va sortir, j'espère bien.
Oui, un gros, gros merci à vous. C'est toujours un plaisir.
D'ici là, portez-vous bien.
Merci, au revoir.